C'était soit je continuais des petits boulots à droite, à gauche l'été, l'hiver aux remontées mécaniques, mais bon, c'était pas mon métier. Et à un moment donné, je me suis dit, puisqu'on veut pas te donner de travail, fais-toi ton métier.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulus ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible.
À 180 degrés.
Direction Bourg-d'Oisans, où Laurent Mettler a su faire de sa passion pour les bicyclettes anciennes son nouveau métier, quand les vélos vintage retrouvent une seconde vie et donnent un second souffle.
Bonjour Laurent.
Bonjour Émilie.
Merci de m'accueillir au sein de la Bicycletta, c'est la caverne d'Ali Baba du roi du vélo vintage.
Je suis content de vous accueillir dans mon établissement que j'ai créé en 2016, l'activité professionnelle en 2016 et cet établissement en 2018.
Vous me faites un petit peu découvrir?
Dans un premier temps, on va rentrer dans la pièce que j'appelle le showroom. C'est là où vous avez les plus belles pièces de vélo vintage restaurées, plus des pièces de collection, dont un vélo professionnel qui a couru le Tour de France.
Avec la fameuse Graziella?
Avec la fameuse Graziella, qui est un petit vélo pliant, qui est, je dirais, mon petit chouchou de l'histoire de la Bicycletta, parce que j'ai démarré avec ce type de vélo.
Comment on passe de la radio, où vous travailliez avant, au vélo pliant des années 60-70?
Par une reconversion professionnelle. Ma carrière professionnelle, elle est un peu atypique, je dirais, parce que j'ai été employé de banque à 16 ans. J'ai démarré au Crédit Lyonnais, je portais la cravate, ça ne me plaisait pas du tout. Et puis, dans les années 79, je suis resté 3 ans. En 1979, il y a le monde de la radio pirate, qu'on appelait ça à l'époque, la radio FM pirate, qui s'est développée. Et puis, j'ai travaillé bénévolement, parce qu'on n'était que des bénévoles à l'époque. Au fil des années, la radio est devenue radio locale, avec de la publicité, donc ça a permis de salarier des gens et je me suis retrouvé professionnel de la radio FM à l'époque. Et je suis passé d'une petite radio locale à Tours qui s'appelait RMS au groupe Énergie. J'ai travaillé dans le groupe Europe 2, après j'ai travaillé chez RTL 2 et puis j'ai fini ma carrière professionnelle dans le monde de la radio à l'Alpe d'Huez, dans le groupe Lagardère, avec la radio qui s'appelle RFM, et qui était en l'occurrence RFM Alpe d'Huez, et qui a été fermée. Donc, je me suis retrouvé à 50 ans, sans travail à l'Alpe d'Huez, en me posant bien des questions, comment j'allais rebondir. Alors, dans un premier temps, j'ai végété un petit peu, j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé aux remontées mécaniques, parce que, connaissant des gens, on m'a aidé pour me redonner un travail. Mais bon, être dans une remontée mécanique, c'était pas mon job, j'étais pas fait pour ça, donc...
Puis là, en plus, vous travaillez avec des collègues, j'allais dire, là, vous travaillez tout seul, en plus, avant, ce qui vous plaisait assez.
Ah oui, en radio locale, effectivement, moi j'ai toujours travaillé dans des petites équipes, puisque je suis resté toujours en province, je ne suis pas remonté à Paris. Donc en petites équipes, on était, soit j'ai été tout seul, à RFM Alpe d'Huez, j'étais tout seul, ou alors on était en équipe de deux ou trois, donc on avait une certaine indépendance, et puis on avait carte blanche de la direction, parce qu'on faisait du bon boulot quand même. Donc ça a été compliqué d'intégrer une société avec beaucoup de personnel, une dynamique qui n'était pas évidente pour moi, et puis surtout un métier qui ne me correspondait pas, mais qui m'a quand même fait vivre quelques temps. Et puis après l'été, je faisais des petits boulots à droite, à gauche, sur des chantiers. Et à un moment, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai décidé de me reconvertir. Et m'est venue l'idée de devenir mécanicien vélo. Et je suis rentré dans un créneau qui, à l'époque, n'existait pas, le vélo vintage.
Vous disiez mécanicien, enfin, c'était quand même un monde qui n'était pas étranger pour vous.
Non, j'ai toujours fait plus ou moins du vélo, j'ai fait également de la moto, j'ai toujours, depuis que j'étais tout petit, j'ai été dans la mécanique, j'aimais bien être les mains dans le cambouis, comme on dit. J'ai toujours eu de l'outillage. Démonter, remonter un vélo, ça ne me paraissait pas très compliqué, mais en faire un métier et monter une activité là-dessus, là, les complications sont arrivées. Parce qu'en France, c'est pas parce qu'on sait faire de la mécanique qu'on peut monter un magasin de vélo. Donc, j'ai été obligé déjà de passer un diplôme.
On continue la visite.
Voilà. On va passer à l'atelier. On a une partie, c'est la partie pièces détachées, hein, qui, pièces détachées qui sont à vendre, et puis que je me sers également pour monter les vélos. Là, on a les vélos. Bah, c'est le travail à faire.
Ils sont magnifiques.
Oui, il y en a pas mal. Hein. Là, j'ai un vélo de 1926 qui est quasiment fini. Et puis là, bah, sur les deux pieds d'atelier, bah, il y a un vélo de 1940, ce qu'on appelle un ancien vélo. Mmh. Et puis sur le deuxième pied, on a un vélo de course Liberia Grenoble qui est en préparation de montage.
Oui, donc là, à l'instant, vous me disiez que vous étiez un petit peu quand même mécanicien, même beaucoup mécanicien. Hop. Dans l'âme pour pouvoir faire ça.
Au final, excusez-moi, je continue le travail.
Allez-y, je veux surtout pas vous déranger.
Bonjour. Voilà justement un client. Client, ami, une personne de Bordoisan, qui a un vélo auquel il faut
bonjour.
Que je fasse.
Vous venez checker les travaux?
Oh, ça fait... il y a un an qu'il est là.
Il sera prêt au printemps. Voilà.
Bon, allez, je vous laisse travailler. Hein.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir. Laurent, au final, d'où elle vient cette idée d'aller chiner des vélos pour ensuite les revendre en les customisant, en faisant en sorte qu'ils soient uniques?
Alors, dans un premier temps, l'idée elle vient d'une période de fin. Excusez-moi, je continue. Là, je suis en train de polir un tube de sel. Donc, il faut que je le nettoie et que je le polisse.
D'accord. Hein.
Mais bon, ça va peut-être faire quand même pas mal de bruit. Alors, l'idée de restauration des anciens vélos, elle vient de par ma fille, à une période où j'étais sans travail, que j'avais pas beaucoup de moyens. Et ma fille venait de grandir et il a fallu lui acheter un nouveau vélo. Donc quand j'ai vu le prix des vélos neufs, même dans les gros établissements, c'était assez compliqué pour nous. Pour son anniversaire, il fallait quand même y acheter un beau vélo. Donc j'ai acheté un vélo sur le Bon Coin, dans un état très moyen, et puis bah, je l'ai démonté, j'ai tout nettoyé, j'ai tout poliché, j'ai refait le vélo à neuf. Et de là, ma compagne, quand elle a vu le travail accompli au final, c'est elle qui a eu l'idée, qui m'a dit « mais je savais pas que tu faisais de la mécanique comme ça, que tu étais capable de refaire des beaux vélos, donc pourquoi tu te lancerais pas dans une activité de restauration d'anciens vélos, d'acheter des vieux vélos, de les refaire et de les revendre ?» Alors, dans un premier temps, je me suis quand même documenté parce que je voulais pas faire n'importe quoi. Parce que acheter un vélo 25 euros sur le Bon Coin et le revendre 100 euros, on gagne pas sa vie, hein, on n'arrive pas à manger. Donc, quand je suis parti dans cette idée, je me suis dit, il faut faire une certaine qualité de manière à attirer une certaine clientèle à fort pouvoir d'achat. Donc, vraiment faire de la qualité. Et donc, je me suis documenté pour voir ce qui était recherché dans le milieu des collectionneurs dans un premier temps. Et puis, ce qui arrivait au niveau des nouvelles modes. Donc, je me suis rendu compte, dans les nouvelles modes, le vintage arrivait. Et j'ai commencé à mettre en vente des petits vélos pliants, comme les Graziella que vous avez vus. Et je me suis rendu compte que les femmes en ville, d'une certaine tranche d'âge, je dirais entre 30 et 40 ans, étaient très intéressées par ce type de vélo, parce que pour elles, ça représentait le vélo de leur maman ou de leur grand-mère, un vélo qui n'était pas commun, qu'on ne voyait pas partout. Et voilà comment l'aventure a démarré. Et puis, une fois que j'ai démarré ma petite boutique, j'ai eu Oisans Tourisme qui sont venus me voir parce que dans le cadre touristique, ils ont monté une association qui s'appelle la Route des Savoir-Faire de l'Oisans, qui regroupe tous les paysans de la région et les artisans de la région. Et mon activité convenait tout à fait, rentrer dans les critères de leur association. Donc, ils m'ont donné un sérieux coup de main au niveau de la communication. Et ça, c'est très important. J'ai fini de polir. Hein, j'ai fini de polir ma pièce. Donc, je vais me remettre... Hop, je vais me remettre sur ce vélo là, qui est, lui, c'est un vélo des années 40. C'est un vélo de l'époque juste avant-guerre. C'est un client qui me l'a amené. Attendez. Voilà. Alors là, je suis en train de voir si la roue elle tourne correctement et puis que la roue libre, elle fait bien son effet. Donc ça, c'est un vélo des années 40, comme je vous disais. C'est le vélo qui appartient à un client, un Normand, qui est descendu de Normandie pour m'amener son vélo. Et c'était le vélo de son grand-père. Et lui, son idée, c'était de refaire le vélo du grand-père comme à l'époque. Donc il est arrivé avec un vélo qui était tout rouillé. Et il m'a demandé si je pouvais refaire ce vélo-là à l'état d'origine, tel que son grand-père l'avait.
Donc lui descend de Normandie, mais il faut quand même souligner que des gens du monde entier viennent vous commander des vélos. Vous me disiez de Hong Kong même.
Ça, c'est le fait d'habiter à Bourdoisan, parce que l'été, on voit quand même beaucoup de cyclistes ici. On est quand même au pays du vélo. Les cyclistes, quand ils ont fini de faire leur périple la journée, ils se promènent dans Bourdoisan. Donc automatiquement, quand ils voient un magasin de vélo, et qui plus est vélo vintage, ils rentrent dans la boutique. Je me retrouve avec des Américains, des Australiens, un petit peu tous les pays du monde qui viennent visiter mon shop dans un premier temps. Quand il y a le coup de cœur, ça déclenche une vente.
Vous exportez quand même à l'international?
Tout à fait, voilà. Ah, j'ai des vélos actuellement. Je dirais aujourd'hui, je suis présent dans 24 pays au monde en ayant vendu des vélos ou vendu des tenues La Bicicletta, qui est pour moi une référence, parce que quand un Australien porte la tenue complète La Bicicletta, ça me fait de la publicité dans son pays.
Pour en arriver à ce stade-là, est-ce qu'on peut dire que vous avez galéré tout seul dans votre coin, ou est-ce qu'on vous a aidé ?
Alors, dans un premier temps, j'ai galéré tout seul quand même. Il faut savoir que, avant de démarrer mon activité, je suis parti dans un principe, je me suis documenté. J'ai préparé l'activité pendant à peu près une année, tout en travaillant aux remontées mécaniques de l'Alpe d'Huez. Et puis, un jour, j'ai eu un entretien avec la responsable des relations humaines. C'est des entretiens qui se font quasiment tous les ans à la Société des remontées mécaniques de l'Alpe d'Huez. Et puis, on a discuté du travail, de tout ça. Et puis, elle m'a posé la question de savoir comment je voyais mon avenir. Est-ce que je la voyais dans l'entreprise ou est-ce que je la voyais d'une autre manière? Et moi, je lui ai parlé de mon projet. Cette personne m'a donné un sérieux coup de main parce qu'elle m'a donné quand même des adresses très utiles. Elle m'a fait bénéficier du ce qu'on appelle le 1% patronal. Donc, je suis rentré dans le cadre du fonds GETSIF de manière à aller faire une formation dans ce qu'on appelle technicien du cycle. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, pour monter un atelier magasin de vélo, il fallait absolument avoir une capacité qui s'appelle capacité technicien du cycle. Depuis la loi Macron, c'est plus obligatoire. Mais moi, il me la fallait. Et c'était donc une formation qui durait 8 semaines, qui était à Grenoble, donc 65 km aller-retour tous les jours. Ça représente quand même un sacré budget. Une formation qui coûtait quand même presque 3000 euros.
Donc là, de votre poche?
Normalement, de ma poche. Mais de par le fonds GESIF, ça m'a permis justement de rentrer dans ce système de reconversion professionnelle avec les aides du fonds GESIF et les aides de tous les organismes nécessaires. Donc je dirais, lorsque j'ai fini ma saison d'hiver, on m'a conseillé de me mettre à Pôle emploi, bien sûr, d'aller suivre un entretien pour leur expliquer mon projet de manière à ce qu'ils ne me proposent pas d'autre travail. Pôle emploi m'a donc donné également des adresses nécessaires, m'a donné tous les éléments qu'il fallait. Et pendant ma formation, je pouvais toucher les allocations chômage sans difficulté. Donc, je dirais, j'ai profité du système français, mais d'une bonne manière.
À 180 degrés.
Laurent, qu'est-ce que vous allez faire?
Là, je suis en train d'essayer de redresser justement mon tube de sel que j'ai poli. Je vais essayer de le redresser. C'est pas évident. En général, ça, c'est des travaux. On sait quand on démarre, mais on ne sait pas quand ce qu'on va finir et on ne sait pas si on va réussir. Mais ça se fait quand même.
Vu votre réputation, je ne m'en fais pas.
Oui, mais j'essaye quand même de. Et donc là. Pour pas taper le marteau directement sur le fer, je prends une cale en bois. Je fais ni plus ni moins un travail de carrossier. C'est tout à fait ça. Voilà.
Une fois la formation finie, vous avez, j'imagine, pas ouvert votre magasin dès le lendemain?
Non. Alors, j'avais ma capacité en poche. Mon idée, c'était de monter un atelier magasin. Donc, j'ai cherché sur Bourdoisan s'il y avait des locaux de disponibles. Et j'ai réussi à trouver un petit local, là, juste à côté, rue Viennois, qui était un local communal. La commune faisait un système de réhabilitation. Donc, je suis allé voir le maire de Bourdoisan, je lui ai expliqué mon projet. On était plusieurs, effectivement, sur le local. Mais bon, apparemment, je suis passé en commission et mon projet a bien plu parce qu'il voulait absolument, dans cette rue Viennois, il voulait absolument des artisans.
Quel recul vous avez, parce que c'est quand même une grosse claque, un licenciement, surtout à 50 ans.
Ce qu'on entend à la télé, les seniors, je dirais quand on a 40 ans, 30, 40 ans, on n'y pense pas, on n'écoute même pas. Mais quand on a 50 ans, on se rend compte qu'on est dans la réalité des choses, de ce qui se passe aujourd'hui. Et à 50 ans, je me suis fait licencier. Bon, j'ai retrouvé des petits boulots, voilà, mais... Pour retrouver vraiment un travail stable, on ne vous le dit pas, mais vous vous rendez compte que vous êtes trop vieux. Et c'est un ami qui m'a ouvert la voie, qui était chef d'entreprise. Je lui ai montré mon curriculum vitae. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais que tu me dises la vérité. Est-ce qu'avec un CV comme le mien, tu m'embauches? Et il a été franc avec moi. Il m'a dit, pour tes compétences, je t'embauche. Par contre, la problématique pour moi, c'est que tu es trop cher parce que tu es trop vieux. Voilà. Donc là, je peux vous garantir que vous prenez une sérieuse claque. Vous en avez presque les larmes aux yeux, malgré que vous avez 50 ans, et bah, vous vous posez des questions. Alors, dans un premier temps, il faut faire attention à ne pas tomber dans la déprime. Moi, ça m'est un peu arrivé. Hein. C'est parce que vous dites, mince, trop vieux à 50 ans, non, mais comment je vais faire pour aller à la retraite? Parce que on veut rallonger les retraites, mais on ne veut pas faire travailler les gens. Et puis, bah, au bout d'un moment, surtout quand on est dans des pays comme ici, que le travail ne court pas les rues quand même, donc j'avais pas le choix, c'était soit je continuais des petits boulots à droite, à gauche l'été, l'hiver aux remontées mécaniques, mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas mon métier. Et à un moment donné, je me suis dit, puisqu'on veut pas te donner de travail, fais-toi ton métier. Bah là, je suis en train de chercher des étriers de frein pour ce fameux vélo des années 40. Donc, j'ai plusieurs modèles et j'essaye de trouver le modèle qui va correspondre par rapport au vélo, de manière à ne pas dénaturer l'époque du vélo. Ça, c'est très, très important. Je fouille là-dedans. C'est...
Et en parlant d'époque, est-ce que du coup, il y a une certaine amertume du passé ou pas, Laurent ?
De ma carrière professionnelle radiophonique, non. J'ai passé des très bons moments avec des gens sympathiques. Je suis passé dans plusieurs radios, donc dans plusieurs régions de France. Donc c'était sympa de déménager à droite, à gauche. Je dirais la seule différence, ce que je préfère aujourd'hui, sans amertume par rapport au passé, c'est que la radio, c'était du stress en permanence, des objectifs, du stress. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous sautez et vous devez aller ailleurs. Que là, ma petite affaire, bah, je dirais, le seul stress que je peux avoir, c'est le chiffre d'affaires que je suis obligé de réaliser. Mais je travaille avec des clients sympas qui ne sont pas pressés. Je n'ai pas de stress pour faire un vélo dans les 48 heures. Voilà. Si j'ai décidé que le vélo, je le ferai en 3 mois, le client, il va le comprendre. Parce que ce qu'il veut, c'est avoir le vélo. Que lorsque j'étais dans les médias, je pense que vous devez peut-être connaître ça aussi, on est stressé, il faut toujours avoir des objectifs, il faut aller vite, très vite, très vite, et des fois, on précipite les choses et on fait des petites bêtises. Que là, aujourd'hui, je dirais, j'ai la liberté. Alors ça, les petits ressorts, il ne faut surtout pas les perdre. En général, sur un vélo, la cerise sur le gâteau, ça c'est le petit cadeau quand on m'amène le vélo, si cet accessoire n'y est pas.
La fameuse sonnette.
La fameuse sonnette que j'offre au client.
Ah. Voilà.
Elle fonctionne bien.
Il y a des sonnettes vintage ou il y a des différentes?
Oui, ça c'est une sonnette des années 20, 30. Hein.
Je vais peut-être vous demander de mettre une sonnette de ce bruit-là sur mon vélo à Paris.
Alors on a d'autres bruits si vous voulez les sonnettes. Alors ça, c'est des sonnettes vintage également, mais c'est des rééditions.
Ah, je préfère l'autre.
C'est joli aussi. Ouais. Que l'autre, c'est vraiment du gring-gring.
Mais ça, c'est parfait à Paris.
Ouais.
Pour dire poussez-vous.
Tout à fait.
Laurent, pour terminer, la liberté, ça n'a pas de prix.
J'essaye de m'éviter de me mettre la pression, comme je vous disais, sur les délais de livraison des clients. Mais j'ai quand même la pression des charges sociales. Il faut absolument les payer. Et c'est ce qui est un peu le plus compliqué, je dirais, dans notre pays aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué d'être artisan.
Vous réussissez bien à en vivre de votre activité ?
J'en vis. Voilà, j'arrive à manger tous les fins de mois, j'arrive à payer tout ce que j'ai à payer. Mais je ne deviendrai pas riche avec cette activité. L'objectif, c'est d'arriver à la retraite, et un peu plus que la retraite, parce qu'on peut continuer, tant qu'on a les yeux et les doigts dans ce travail, on peut continuer un petit peu plus loin.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à 59 ans ?
Continuer à faire du vélo, parce que je fais du vélo. Et j'ai des objectifs pour le vélo, en l'occurrence cette année. Mon objectif, c'est d'arriver à monter le Mont Ventoux avec un vélo vintage des années 70 et d'aller courir la fameuse course Heroica, comme son nom l'indique, la course héroïque qui fait 175 km qu'avec des vieux vélos.
Bon challenge, Laurent, que ça soit au niveau sportif, au niveau professionnel. Et puis, à très vite, j'espère.
Merci beaucoup, Émilie.